Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien de OCISA et des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de Suède, de Belgique et d'Allemagne.
Voilà, les épreuves des examens d'État, c'est dans quelques jours. Voilà, c'est à partir du 21 juin. Et plusieurs finalistes du secondaire sont déjà dans la fièvre, des préparatifs, quelques démarquis. Des jeunes gens se regroupent à gauche à droite dans les quartiers pour préparer ces épreuves. Certains sont dans les maquis, tels que je vous l'ai dit tout à l'heure. D'autres se regroupent au sein de leur établissement scolaire. Alors, comment doivent-ils s'y prendre pour espérer obtenir des bons résultats? On en parle avec l'abbé Marcus Bindongwa, assistant à l'Université catholique du Congo et auteur de plusieurs publications. Vous voulez participer? Notre numéro de contact, c'est le 081-890-63-94. Monsieur l'abbé Marcus, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jean-Jean.
Alors, comment bien préparer les examens d'État pour comment les finalistes peuvent bien se préparer à affronter ces épreuves?
Bon, d'abord, je commencerai par distinguer trois étapes de préparation à l'examen d'État.
Oui.
Il y a une première étape qui va de... Enfin, qui est une préparation indirecte, très lointaine, qui va de l'école primaire jusqu'en cinquième des humanités. Donc, le fait de bien étudier, d'avoir bien parcouru ces étapes, c'est déjà une grande préparation aux examens d'État. Pourquoi? Parce que le premier jour, ce sont les examens de culture générale, et qui sont des questions qui ne sont pas tirées seulement dans les matières de la sixième année.
Mm-hmm.
Donc, la formation d'enfants joue. Et le troisième jour, l'examen de français, c'est aussi de la culture générale. Là, je suis parce que les questions qui sont posées là-bas ne sont pas seulement celles relevant du programme de français de la sixième année. Donc, c'est déjà une première étape de préparation. Ceux qui ont déjà bien parcouru cette première étape, je crois qu'ils sont déjà plus ou moins préparés. Mais alors, j'aimerais dire aussi que ceux qui ont négligé partent déjà avec des risques en face de cet examen-là. La deuxième étape, c'est toute l'année de la sixième année. Et là, les élèves sont très assidus, ils suivent des cours, ils prennent des cours supplémentaires juste pour combler les vides et tout ça, parce que bon, c'est ce qui donne l'essentiel de la matière pour la deuxième journée consacrée aux sciences.
Oui.
Et la quatrième journée consacré au cours d'option. Alors, ceux qui ont également suivi très bien le cours cette année, qui se sont efforcés, je crois qu'ils sont déjà plus ou moins préparés, parce que là, nous sommes à presque plus ou moins 10 jours des examens d'État.
Mm-hmm.
Nous sommes déjà à la troisième phase, donc vers la fin de la troisième phase de préparation des examens d'État. La troisième phase, c'est donc la fin de la sixième année où, comme vous le disiez au début de l'émission ici, il y en a qui vont en maquis, il y en a qui sont internés dans les écoles. Donc,
oui,
on se prépare, on commence à étudier les matières censées être posées censées revenir dans les questions des examens d'État. Donc, nous sommes vers la fin de cette troisième étape. Alors, quel comportement afficher par rapport à cette période-là?
Oui.
Je pourrais dire que cette période, cette troisième étape de préparation aux examens d'État, c'est un moment de bilan, un moment d'évaluation où on fait une certaine confrontation avec les autres. On essaie de voir, en échangeant avec les amis, on essaie de voir quel est leur niveau d'assimilation des matières et quel est mon propre niveau.
Oui.
Parce qu'en me frottant aux autres, je peux le savoir. Il y a également le fait de lire les items, les examens qui ont eu lieu les années passées, heureusement. Déjà dans la ville, beaucoup de syllabus circulent dans ce sens-là. Tel professeur et tel professeur se mettent d'accord, ils réunissent les items de toutes les années passées dans un syllabus, et puis bon, ça sert autour, plus ou moins à cette période-là, vers la veille des examens d'État,
oui,
à permettre aux élèves de s'évaluer en répondant à ces questions. Ils peuvent se coter et se dire que bon, je suis déjà très bien préparé, ou je ne suis pas encore suffisamment bien préparé. Ça, c'est la première chose, temps de bilan pour voir où on en est. Deuxième chose, c'est aussi c'est le moment de la découverte des vides à combler, quoi. Donc, en se confrontant aux autres, et
on découvre ses faiblesses.
On découvre ses faiblesses et on comprend que j'ai des compléments à faire dans tel secteur et dans tel autre secteur. Donc, j'ai des lectures à refaire profondément. C'est une deuxième tâche.
Donc, c'est assez important de faire d'organiser des études ensemble.
Oui. Maintenant, c'est très important. Mmh. Il est inutile pour le moment
de s'isoler.
Oui, de s'isoler. Donc, le temps d'isolement, c'est le temps d'avant. Donc, dès qu'on commence les maquis, les internats, c'est ce moment-là, le temps d'isolement. On s'isole pour maîtriser seul la matière. Et après, quand on arrive à la fin, à ce moment-là, on s'ouvre aux autres pour essayer de s'évaluer. Donc, après l'évaluation, après la découverte de vides à combler, il y a maintenant l'effort de maintenir. Disons, il y a la tâche de maintenir l'effort. Parce que, avec tous les efforts déjà fournis, je me rappelle bien de notre propre expérience, on a commencé tôt. Après 2 mois, on avait tout lu.
Tous les cours.
Oui, après 2 mois, on avait tout fini, vraiment tout fini, parce qu'on étudiait sérieusement. Et le dernier mois, il y en a qui commençaient à perdre un peu d'attention et qui commençaient à blaguer, donc qui étaient sûrs d'avoir eu toute la matière. Alors, donc, il faut maintenir l'effort, continuer à rester en contact avec la matière et en même temps s'efforcer de garder les souvenirs de la matière, disons, très frais dans la mémoire. Donc, de temps en temps, échanger, discuter, même en blaguant, on se pose des questions pour s'attaquer. Et je crois qu'il est très, très important qu'on puisse garder ce moment-là. Et c'est aussi, en quatrième lieu, un moment de perfectionnement.
Certains disent que lorsque vous bourrez trop de matière dans la tête, vous risquez de perdre aussi.
Oui, bon, évidemment, c'est justement ce que je dis là. Ce n'est pas un moment de bourrage. Mais c'est plutôt un moment de révision. Hein, il faut qu'on arrive à revoir ce qu'on a étudié et en même temps à maintenir la matière bien fraîche dans la mémoire. Parce que si on devient sûr de soi et on croit qu'on a tout fait et on diminue les efforts, on diminue l'attention ou la concentration, donc c'est en ce moment-là justement que la mémoire commence également à perdre ses souvenirs et on peut se trouver dans une situation où on est devant l'examen et puis on a l'impression qu'on a tout perdu. Donc, il y a 2 extrêmes à éviter. Le fait de ne rien faire, de ne plus rien faire parce qu'on a déjà tout préparé. De l'autre côté, c'est le fait de trop faire finalement. Vous risquez de vous trouver devant une mémoire surchargée et donc vous ne pouvez pas aller de l'avant.
Voilà, nous avons Ingofa, c'est un candidat finaliste. Il nous appelle depuis Kananga. Bonjour Ingofa.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Oui,
j'avais un peu de questions à poser à notre invité.
Oui.
Je voulais savoir, il vient de parler pour dire, on est déjà arrivé pour venir des examens d'État.
Oui.
Bon, ma question de savoir ceci. Il a dit, tout le monde qui a bien étudié doit quand même se défendre à ses épreuves des examens d'État. Mais je me pose un peu une question, parce que je vois, dès que je prends mon livre pour étudier, à la fin là, il y a des matières que nous n'avons pas étudiées dans la salle. Et parfois, vous arrivez aux examens d'État, on pose des questions sur ces matières-là. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, après que finalistes, parce que nous avons étudié selon le programme. Mais nous trouvons que devant des questions que nous n'avons pas vues dans la salle, et que ces questions-là sont quand même en dehors du programme du programme de la RDC. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, élèves? Ça, c'est la première question.
Oui.
La deuxième question, je veux savoir, aux examens d'État, est-ce qu'il y a des complications pour un peu accéder? Ok, nous avons déjà présenté la dissertation, peut-être sur quel point. Mais pour aussi totaliser le nombre de bien 70%, parce qu'il y a des comités pour dire, avant d'accéder à l'université, il faut avoir, je ne sais pas, 70%. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu réaliser de tels pourcentages? Voilà mes 2 questions que je voulais poser.
Merci, Ingofar, M. Lavé.
Oui, donc, par rapport aux matières non étudiées, c'est comme ça que j'ai dit, il faut prévoir un moment, et c'est ce moment-là justement qu'on est en train de parcourir, de perfectionnement. j'ai étudié tout ce qui était prévu.
Mm-hmm.
Mais en même temps, comme je sais qu'il y a des surprises, en lisant les items passés, on voit parfois des surprises comme ça. Et c'est à ce moment-là que on se perfectionne, on pose des questions à X, à Y, peut-être lui à d'autres éléments que moi je n'ai pas. Donc on se complète. Et
mais pourquoi se prendre à des élèves en posant des questions sur des matières non?
Oui, donc ça c'est justement c'est un problème de sémologique aussi. Donc du côté de la discipline des examens en pédagogie, tout le monde le sait. On pose des questions sur des matières prévues.
Mmh.
Et quand vous posez des questions sur des matières qui ne sont pas prévues, donc il doit y avoir des raisons bien fondées, bien fondamentales pour arriver à ce niveau-là. Sinon, c'est une injustice, quoi. Donc, c'est que vous n'avez pas de
mots. Souvent, les élèves vont toujours décrier. Enfin...
Mais bon, je crois que c'est une attitude qui peut, jusqu'à un certain degré, se défendre aussi.
Oui.
Quoi? Parce que on peut aussi étudier, voir le sens de la recherche des élèves, justement. Donc, ça ferait un point de différence. Donc, en tout cas, 90% des questions pourraient provenir des matières vues. Et si on peut voir ne fût-ce que 10% des matières non vues, hein, c'est là qu'on pourrait voir les meilleurs élèves qui vont se distinguer des autres. Donc, je crois que c'est prévisible. Mais seulement si c'est 50% de la matière qui est non vue, alors là, c'est un problème.
Oui.
C'est juste un petit rien, donc ça ne dérangerait pas. Donc, les élèves sont invités à cet effort de perfectionnement.
Oui.
Par rapport à la deuxième question qui est encore...
Il a parlé, il dit qu'il faut obtenir 70% pour aller à l'université.
Mais évidemment,
comment obtenir ces résultats?
Poser la question maintenant, c'est déjà presque...
c'est tard.
Je dois dire que les carottes sont plus ou moins cuites, hein, parce
qu'il
fallait bien se préparer, donc bien parcourir les trois étapes que j'ai pu énoncer. Et on peut être sûr que, bon, les jours de l'examen, on va bien se défendre et que, finalement, on pourrait avoir ce pourcentage-là. Il ne faut pas s'inquiéter. Si vous avez bien préparé votre examen, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter parce que avant vous, il y a d'autres qui ont obtenu ces pourcentages-là, qui ont même obtenu au-delà de cela et qui sont à l'université. Donc, pourquoi pas vous. Donc, croyez en vous-même et allez de l'avant, quoi.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capitaine.
Ignace Andala est en ligne depuis la ville de Colombie. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour l'invité. Ta préoccupation, c'est qui, là?
Oui.
Il y a des élèves qui ont bien préparé les épreuves au niveau de matière étudiée. Mais il se pose un problème. Il y a ceux qui, jusqu'à ce jour, ne savent pas encore comment remplir les grilles de réponse. Quelles sont les chances de réussite et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux présentement?
Merci, monsieur Labé.
Oui, cette période, c'est en même temps aussi une période où on peut, s'atteler à ces tâches pratiques-là.
Comment remplir les grilles de réponse?
Il appartient aux écoles qui préparent les élèves, d'aller jusqu'à ce niveau-là, donc d'amener les grilles des années passées et de montrer aux élèves comment on fait. Bon, je crois qu'on a déjà commencé cela avec les sources à remplir. On ne remplit pas les sources comme on veut, comme on peut. Le préfet ou le directeur d'études, le conseil pédagogique ou un autre professeur pense être chargé de dire, de montrer aux élèves comment on fait. Donc,
parce que dans la salle, certains élèves sont stressés, ils ont peur. On dit, mettez votre nom, ils oublient parfois de mettre son nom à l'endroit indiqué.
Oui, là, justement.
Les codes, ils oublient tout ça, les centres, et ça leur crée de la nuit plus tard.
Le préfet, la direction de l'école, du centre autodidacte,
oui,
doit assurer cette responsabilité, cette tâche-là, demandant aux élèves de commencer toujours par là et c'est pas demandant en même temps au début une certaine vigilance entre les élèves pour se rappeler cela. Et je crois que les surveillants, je me rappelle bien que les surveillants, quand on les prépare, on leur dit de commencer par ça. Et rappeler Chaque fois aux élèves de commencer par remplir, par mettre les noms, par remplir les cases de ceci, de cela. Et parmi les tâches de surveillance, c'est de parcourir, disons, les copies pour voir en
sérieusement
si chacun a rempli, a bien rempli. Je crois que ils sont aidés, donc ils n'ont pas à craindre l'examen d'État, ce n'est pas la mort. Donc ils sont devant ces examens depuis la première année primaire. Là, ce serait déjà c'est la 12e année.
Ils sont souvent traités, ils ont peur.
Il ne faut pas justement avoir peur, parce que quand vous avez peur, la fidélité, vous perdez de la fidélité de la mémoire, et donc vous allez même oublier les matières que vous avez bien maîtrisées. Soyez calme, tout simplement, et remplissez comme il se doit, c'est un examen comme tous les autres.
Paulin Fondy nous appelle, il est finaliste, il nous appelle depuis Bounia, en Ituri. Bonjour.
Oui. Bonjour, monsieur. Je dis Kachama, bonjour à l'invité.
Bonjour. Oui, Paulin.
Oui, monsieur. J'ai une petite préoccupation. Je suis élève finaliste à Monseigneur Lukonti. Et puis, je suis aussi à Maki comme les autres. Il y a un élève de famille qui vient nous rejoindre de GTIR. Et puis, il n'a pas bien maîtrisé ses matières. En fait, des temps qui restent, quelle solution pourrait-il donner à cet élève?
De quelle matière s'agit-il?
Je crois que c'est une matière en général.
Voilà, Paulin, vous êtes encore en ligne?
Oui, oui.
Oui, je disais, qu'est-ce qu'il n'a pas maîtrisé exactement?
D'accord.
Voilà. Monsieur Labbé.
Oui, je peux comprendre que cet élève-là est venu rejoindre les amis en maquis, il était peut-être à la maison, il vient. Et les autres constatent qu'il n'a pas bien maîtrisé toute la matière, l'ensemble des matières. Oui. Il se pose maintenant la question, lui pose la question à sa place pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, il faut qu'il se fasse aider. Il faut qu'il se fasse aider, qu'il ne panique pas trop d'abord, et puis qu'il se fasse aider. Et ses collègues, ses amis ont ce devoir-là de l'aider petit à petit à sauver les meubles, à combler les vides des possibles.
Est-ce qu'il y a moyen de se rattraper en 2 semaines, monsieur?
S'il s'est tué vraiment, il peut se rattraper jusqu'à un certain niveau, mais ça reste toujours un risque. Il peut craquer parce que, il a moins de temps, il est blessé, et puis bon, il risque de connaître un bourrage de matière. Et, bon. Mais en tout cas, les autres, ses amis, ont cette responsabilité de l'aider. Et d'ailleurs, pour eux, c'est intéressant de se trouver devant quelqu'un qui ne maîtrise pas bien la matière, parce que à force de lui expliquer ces matières-là,
vous maîtrisez mieux.
Vous-même, vous maîtrisez davantage cette matière. Donc, je crois qu'on peut l'aider de cette façon-là à se tirer d'embarras, si ça sera possible qu'il se tire vraiment d'embarras, parce que bon, là, il doit être conséquent, parce que on a eu tout le temps, il aurait dû venir chez les autres un peu avant, pour voir ce que les autres ont fait, mais il vient en retard, bon, il doit s'assumer.
Modeste Vital est finaliste de Calémie. Bonjour.
Les fainéants qui ne font sûrement rien.
Modeste Vital, bonjour. Modeste, bonjour.
Allô?
Oui, Modeste, bonjour, on vous écoute.
Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Juste à la fin de l'année, cet élève qui est fainéant est réussi. Quel est le remède qu'il peut donner aux élèves finalistes? Parce que, personnellement, moi j'étais candidat malheureux l'année passée et je ne suis pas bon. Ce n'est pas une question de me faire vanter ici. Je ne suis pas fainéant, je me débrouille. Mais je me suis demandé comment est-ce qu'il veut échouer. Et il y a les élèves qui étaient moins intelligents que moi. Ils ont réussi. Alors je ne sais pas cela est dû à quoi. La deuxième préoccupation, ici à Calémie, il y a une radio là, la RTLC Calémie. Il y a souvent une émission, voulais-je bien dire, à 4 jours. On invite souvent les finalistes. Mais il y a les journalistes de chez nous qui nous disent l'essentiel est de participer à cette émission et non de gagner. N'est-ce pas là une façon de décourager déjà les finalistes? Merci.
Merci, Modeste, monsieur Labbé.
Je vais commencer par la deuxième partie. Bon, l'essentiel est de participer. Bon, c'est un minimalisme, mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas soutenir. Oui. L'essentiel, ce n'est pas seulement de participer pour les examens d'État. L'essentiel, c'est de réussir. Il faut aller avec l'idée de réussir et pas seulement de réussir simplement avec un 50%, mais de réussir avec le plus de points possibles. Je crois que là, il y a à corriger. Heureusement que il a lui-même vu qu'il y avait un défaut là-dessus.
Oui.
Mais quant aux élèves fainéants qui réussissent quand même, bon, et aux élèves assidus qui échouent,
oui.
Bon, plusieurs raisons, il faut aller au cas par cas, il faut étudier les cas, plusieurs raisons peuvent expliquer des choses comme ça.
Mmh.
Peut-être que celui qui n'avait pas étudié, il a travaillé par hasard. Et le hasard a payé, parce que bon, en logique, on dit du faux peut provenir n'importe quoi, donc on peut, surtout que c'est un examen à choix multiple,
oui.
Alors on peut travailler par hasard et
réussir.
Mm. Mais c'est vraiment des cas extrêmes, qu'il ne faut pas conseiller comme une stratégie de travail, quoi. Donc avec ça, on dit par exemple faire des picopicos, donc faire un certain tirage aussi sort pour voir quelle est la réponse, parce qu'on ne connaît pas. Mais il y a très rarement, ça peut arriver, que quelqu'un, par ces jeux-là, arrive à ce niveau-là.
Il a donné son cas, il dit qu'il n'est pas parmi les fainéants, il s'est battu, mais voilà, il n'avait pas réussi.
Heureusement qu'il a dit qu'il n'est pas parmi les meilleurs, il a dit qu'il s'est débrouillé. Hein? Il a fait une auto-évaluation qui signifie peut-être qu'il s'est surestimé.
Oui.
En réalité, il a été plus ou moins paresseux l'année passée, sans, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il l'était. Donc, il doit, enfin, j'espère que cette année, il a fourni l'effort d'être vraiment à la hauteur de ce qu'il va faire. Oui. Peut-être aussi qu'il y a un problème au niveau de la correction, parce qu'on dit que c'est une correction à l'informatique. Alors, il faut qu'à ce niveau-là, les ministères puissent voir les techniques de correction, comme il se doit, pour être sûr qu'on ne se trompe pas des séries, qu'on ne se trompe pas de. De corriger pour que. Il n'y a pas de cas qui ressemble à des erreurs graves ou à des injustices ou à ceux qui ont bien travaillé sous et ceux qui ont mal travaillé
réussissent.
Le 50 mai, on en parle dans Parole aux auditeurs.
En juin, chaque mardi, émission spéciale orientée sur les perspectives d'avenir. Mardi 8 juin, le système éducatif et la promotion de la science. Mardi 15, le budget de l'État et l'industrialisation. Mardi 22, sécurité, une armée à la dimension du pays. Mardi 29, quelle politique étrangère sur la scène internationale?
50 ans d'histoire, ça discute avec vous, dans Parole aux auditeurs, sur Radio Capi, chaque mardi, à partir de 11h.
Nous parlons des préparatifs des examens d'État. En ligne, Sébastien Manga, finaliste de Kindou, et Jean Lacroix depuis Baraka. Sébastien, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à monsieur l'invité.
Bonjour. Allez-y.
Ok, ma préoccupation est la suivante. J'aimerais demander à notre invité comment un élève finaliste peut-il établir son horaire d'études pendant ce temps alors qu'il ne reste que 2 semaines des examens. Faut-il continuer avec l'ancien horaire là où nous étudions 2h ou 2h30 ou établir un nouvel horaire? C'est ça ma première préoccupation.
Oui.
Et la seconde, nous ici, je suis finaliste au complexe scolaire La Fontaine ici à Kindou. Jusqu'à présent, les inspecteurs ne nous ont pas encore montré comment remplir les grilles électroniques. Jusqu'à ce moment, nous sommes vraiment troublés. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous ferons ce jour-là. Est-ce que M. le directeur peut m'éclaircir ces deux préoccupations?
Merci Sébastien. Jean Delacroix, depuis Baraka, bonjour. Jean Delacroix.
Monsieur le directeur.
On vous écoute.
Ok, ici chez nous à Baraka, vous trouverez que la surveillance au TENAFEX, tout comme aux examens d'État, est assuré par les enseignants des écoles primaires. Mais je ne sais pas si ce cas est signalé un peu partout en République démocratique du Congo. Hein. Et si la réponse est oui, alors la question, sur base de quoi on exclut les enseignants des écoles secondaires à la surveillance et maintenir les études que ceux de l'école primaire?
Merci Jean, monsieur Lambert.
Moi, je commence par la question de Jean de la Croix. Ben, je pense que si on a levé cette option-là, c'est peut-être pour minimiser le cas de tricherie ou de. Comment on appelle ça encore? Il y a un système où on envoie des mercenaires, donc un professeur qui connaît bien ces matières-là, peut, comme il enseigne, peut jouer ces jeux-là avec des élèves qui peuvent le contacter. Bon, en fait, je m'imagine que c'est pour cela, comme ça qu'on met l'enseignant
de l'école primaire.
De l'école primaire, pas seulement des écoles primaires, on met même le personnel
administratif.
Oui, on met même ce personnel-là, donc juste pour que bon, des gens qui sont liés à l'enseignement, mais qui en même temps n'ont pas directement de lien avec les matières concernant qui concernent les examens d'État.
Donc il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème.
Mais le surveillant, enfin pour un élève qui présente un examen d'État, le surveillant, qu'il soit son professeur ou qu'il soit, c'est pas moi, un enseignant de l'école primaire, ça ne change rien. Même une dame de l'école, une monitrice de l'école maternelle, ce n'est pas son problème. Toi, ton souci, c'est de présenter ton examen d'État correctement. Les surveillants, peu importe, ne t'en occupe pas. Alors, Sébastien qui demandait quel horaire prendre, ça dépend. On ne peut pas vous imposer un horaire. Essayez de faire l'évaluation de vous-même. Si vous savez que vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts avant,
2 heures d'études par jour,
c'est insuffisant. 2 heures,
oui.
Ça c'est vraiment une très grande paresse. Si jusque-là vous n'avez étudié que pendant 2 heures, je ne sais pas comment vous avez pu faire pour maîtriser toute la matière. Donc,
il faut moins combien d'heures? 4 heures.
En tout cas, si vous avez cours l'avant-midi, vous avez tout l'après-midi pour étudier, on peut dire même 6 heures. Hein.
6 heures.
Vous avez 4 heures l'après-midi, si vous avez cours l'avant-midi, vous terminez. L'avant-midi, vous avez un temps de repos, et vous pouvez répondre de 14 heures, disons, ou de 15 heures, à 18 heures, 18 heures, 19 heures, vous reposez, et puis vous avez 2 heures la nuit avant de dormir.
Alors, donc, à quel moment, combien d'heures consacrées à l'étude personnelle et combien d'heures consacrées à l'étude en groupe?
Ce que je dis, c'est pendant le début de la troisième étape, où on est à maquis et tout ça, c'est rythme, ça c'est rythme qu'il fallait travailler.
Mmh.
Et maintenant, là, on doit baisser un peu de rythme quand on sait qu'on ne sent pas de surmenage. Donc, disons, quand on commence à sentir un peu de fatigue, un peu de surmenage, on peut baisser le rythme, mais maintenir quand même un certain temps, même la moitié, 3 heures de travail par jour, comme ça, ça vous permet de maintenir vif les souvenirs de la matière que vous avez étudiée dans votre mémoire. Mais quand vous savez que vous n'avez pas suffisamment travaillé, comme le cas de cet élève dont les amis constatent qu'il ne connaît pas beaucoup de choses, mais lui, à ce moment-là, il doit fournir, doubler des efforts, maintenir le rythme, bon, tout en se donnant aussi des petits moments de repos, sinon il va craquer et tout perdre à la dernière minute. Alors, par rapport à la deuxième question, des grilles...
On ne les a pas encore appris comment remplir les grilles.
Bon, j'espère que les autorités vous entendent et que on fera un concert de leur mieux pour donner les mots d'ordre qu'il faut et prévoir des mesures d'encadrement pour que ces élèves puissent apprendre à temps et tôt, donc d'ici la fin de cette semaine, comment ces grilles-là électroniques se remplissent.
Monsieur l'abbé Marcos Binungwa, assistant à l'Université catholique du Congo et auteur de plusieurs publications, je vous remercie.
Au nom de vous, merci aussi.